Et voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Rassurer les éventuelles craintes des investisseurs étrangers en pleine crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui 150 grands patrons sous les ors de Versailles.
Juste avant l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, demain, Oxfam dénonce des inégalités de plus en plus criantes entre les plus riches et les plus pauvres.
26 milliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Oxfam accuse notamment l'évasion fiscale d'être responsable de la situation. Dans le Brexit, la première ministre Theresa May annonce aujourd'hui son plan B devant les parlementaires, alors que 170 patrons viennent de signer une lettre commune pour réclamer un deuxième référendum.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, sécurité routière, les 80 km/h, s'agit-il d'une mesure utile? On en parle avec Philippe Chrétien, il est délégué général du CESAR, le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques.
Emmanuel Macron déroule donc le tapis rouge à près de 150 chefs d'entreprise venus du monde entier en route pour Davos avec l'ouverture demain en Suisse du Forum économique mondial. Aujourd'hui, le président français propose aux investisseurs de choisir la France. Choose France, c'est le nom de ce sommet hexagonal qui se tient sous les ors du château de Versailles pour la deuxième année consécutive. Mais aujourd'hui, les investisseurs ne sont-ils pas refroidis par le mouvement des gilets jaunes? Et de Souillac à Versailles, des maires aux grands patrons, comment Emmanuel Macron va-t-il faire la jonction? Premier élément de réponse, en braquant les projecteurs sur les entreprises étrangères qui investissent dans la France dite périphérique. Illustration avec le groupe américain Mondelez qui veut investir 7 millions d'euros dans son usine de Cestas en Gironde pour augmenter la production de biscuits Mikado de 40% dès l'an prochain. De quoi confirmer l'attractivité de la France qui monte en flèche ces dernières années à Anne-Lorchouin.
C'est une dynamique entamée en 2016 qui ne se dément pas depuis. La cote de la France remonte aux yeux des investisseurs étrangers. Cela date d'avant le lancement de Choose France, mais ce type de rencontre, où le dialogue entre les ministres et les PDG se fait directement derrière des portes fermées, concourt à instaurer un climat de confiance économique, alors que la concurrence européenne est rude et que l'actualité française inquiète les investisseurs étrangers. Mais pour l'instant, aucun signe de panique, selon Marc Lhermitte, associé du cabinet EY, qui publie chaque année un baromètre de l'attractivité française.
La France est un pays qui compte et qui compte beaucoup plus depuis 3-4 ans parce que le pays se transforme et les investisseurs le voient, parce qu'il améliore sa compétitivité fiscale, droit du travail. On fait de la science en France, on fait de la recherche et ça, ça ne change pas et les investisseurs étrangers en 2018, sans doute en 2019, vont continuer à s'appuyer sur ces facteurs qui sont des facteurs fondamentaux. Je pense que les dirigeants auxquels nous parlons régulièrement sont vigilants néanmoins sur la manière dont l'infléchissement ou l'inflexion des réformes économiques et financières en France pourrait toucher ce qui aujourd'hui les attire en France, c'est-à-dire aussi une fiscalité qui revient à un état normal, à la moyenne européenne. Aucun projet majeur, en tout cas, ne s'est arrêté ces dernières semaines.
Les mesures de soutien de la France à l'économie marchande, au premier rang desquelles le crédit d'impôt recherche, font partie des éléments qui attirent. Les facilités données aux cadres étrangers qui viennent s'installer également. Les transports, la santé et toujours le luxe sont les secteurs qui attirent le plus d'investisseurs étrangers sur le territoire.
Et à l'occasion du sommet Choose France aujourd'hui à Versailles, ATTAC, en partenariat avec l'Observatoire des multinationales, révèle dans un rapport intitulé « Les grandes entreprises françaises, un impact désastreux pour la société et la planète » qu'entre 2010 et 2017, les impôts versés par les entreprises du CAC 40 ont baissé de 6,4% en valeur absolue, alors même que leurs bénéfices cumulés ont augmenté de 9,3% et que les dividendes versés aux actionnaires ont grimpé de 44% en valeur absolue sur la même période. Lui compte bien taxer les géants du numérique, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a commencé à détailler hier dans le journal du dimanche le projet de loi qu'il va présenter le mois prochain sur une taxe qui touchera donc toutes les entreprises qui proposent des services numériques représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial et 25 millions d'euros en France. Une taxe qui s'appliquera de manière rétroactive depuis le 1er janvier, Bruno Le Maire.
C'est d'abord un objectif de justice. S'il y a bien une chose que je ne peux pas accepter, c'est que nos PME payent 14 points d'impôt de plus que Google, Amazon, Facebook ou d'autres géants du numérique. C'est totalement injuste, totalement incompréhensible. On met en place une taxe nationale comme d'autres pays européens, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne vont le faire, mais ça ne nous empêche pas de continuer à nous battre pour que cette taxe devienne européenne. Et j'espère bien que dans les semaines qui viennent, les 3 ou 4 derniers États en Europe qui résistent encore à cette taxe sur les géants du numérique vont se rallier à nous et accepter qu'il y ait une taxe européenne. C'est toujours mieux d'avoir une seule taxe avec le même fonctionnement au niveau européen qu'une multiplicité de taxes nationales.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, au micro de François Ferkataji sur cette taxe donc sur les géants du numérique Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Jeff Bezos, le patron d'Amazon d'ailleurs, ou encore Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, font partie des 26 milliardaires les plus riches de la planète. 26 personnes qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Une concentration des richesses qui s'accentue selon le nouveau rapport d'Oxfam qui sort aujourd'hui. Depuis la crise de 2008, le nombre de milliardaires a doublé dans le monde alors que les biens des plus pauvres ont eux baissé de 11%. Des inégalités criantes qu'Oxfam impute notamment à l'évasion fiscale. Et en cette crise des gilets jaunes, l'ONG appelle Emmanuel Macron à écouter enfin 99% des Français et non plus le pourcent des plus riches. Donner la parole au plus grand nombre, c'est l'objectif du grand débat national. Et s'ouvre aujourd'hui un espace participatif sur le site www.granddebat.fr. Les citoyens des quartiers populaires doivent notamment en profiter pour faire entendre leur voix, estime Amine Elbaï. Cet étudiant en droit à Lille habite à Roubaix dans le Nord et il organisera ce soir ce qu'il appelle un dialogue sur l'organisation de l'État et les relations avec les citoyens. Il compte déjà une cinquantaine de participants sur ses réseaux sociaux.
Les citoyens issus des quartiers populaires doivent prendre pleinement part à ce débat. Je pense que le gouvernement va devoir également répondre à un certain nombre d'aspirations populaires. Les mêmes qui avaient été d'une part évoquées lors du plan Borloo remis au président de la République, mais également répondre aux aspirations populaires parce que dans la ville la plus pauvre de France, le dernier espoir et le dernier message qu'attendent les Français en quelque sorte, c'est qui va nous soutenir, qui va nous écouter. Et si nous ne sommes pas là pour échanger ensemble, eh bien les citoyens vont se sentir désintéressés d'une part de la politique et d'autre part des affaires publiques en général. C'est un vrai défi.
Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes à votre débat ce soir ?
On retrouve bien évidemment des gilets jaunes, des personnes qui ont été sur le terrain, des personnes qui n'ont pas été comme moi sur le terrain, des élus, on retrouve également des ouvriers, des fonctionnaires, des employés, des salariés, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs convictions, leurs choix, leurs idées, on va enfin pouvoir débattre de ce sujet qui est très important à Roubaix, c'est la question de l'organisation des services publics.
Amine Elbaï, étudiant en droit à Lille, originaire de Roubaix, il était interrogé par Anne Fauquemberg. Après une interruption due à la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites revient devant les partenaires sociaux aujourd'hui. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme, propose un système où tout euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tout le monde. Un régime universel donc, à point, et non plus 42 régimes différents comme aujourd'hui. Focus à présent sur une négociation qui pousse les intermittents du spectacle à se mobiliser une fois de plus aujourd'hui à l'appel de la CGT et de FO qui s'opposent à la renégociation de leur assurance chômage. Le gouvernement demande à ce secteur de faire 200 millions d'euros d'économies afin de participer à l'effort général demandé aux chômeurs, près de 4 milliards d'euros sur 3 ans. Syndicats d'employeurs et d'employés ont jusqu'à ce soir pour trouver un accord, mais c'est impossible selon le guitariste Mathieu Crochemort qui milite au SNAM CGT.
Le problème, c'est que là, il y a une négociation qui a été ouverte avec un calendrier extrêmement court. Il y a une lettre de cadrage qui est imposée par le gouvernement et par le MEDEF. Et dans ce cadre-là, nous, on nous demande de négocier en faisant des économies. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que les économies, elles ne doivent pas être faites sur le dos des chômeurs, que ce soit les intermittents ou les autres chômeurs. On pense que le patronat français peut faire des économies aussi. Nous, on voudrait qu'ils fassent des économies sur le CICE, par exemple. On pense que les actionnaires peuvent partager les dividendes cartouches. Enfin, vous voyez, on a plein de propositions, nous. Et il y a un autre problème qui se passe, c'est qu'il y a eu un accord en 2016. Et dans cet accord en 2016, il a été nommé un comité d'experts qui était censé faire une analyse des résultats de l'accord de 2016. Et ça, on n'a toujours pas les chiffres. Alors soit eux, ils ont un compte rendu de comité d'experts qu'ils ne nous donnent pas, soit ils n'ont pas de compte rendu non plus et puis ils demandent aux gens de faire des économies par idéologie. Et nous, on est contre ça.
Mathieu Crochemore, intermittent au SNAM, CGT, au micro de Cécile de Kervasdoué.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est l'attaque la plus meurtrière de djihadistes contre l'ONU au Mali. Elle a été revendiquée par Acmi.
10 casques bleus tchadiens ont été tués hier et au moins 25 autres blessés. Le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique dit avoir agi en réaction contre la visite hier du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Tchad. Cette attaque intervient aussi au moment où Paris annonce la reprise des opérations de la force du G5 Sahel. En Irlande du Nord, 4 hommes ont été arrêtés hier au lendemain de l'explosion d'une voiture piégée à Londonderry. Explosion qui n'a pas fait de victimes. Les soupçons se portent sur une branche dissidente de l'armée républicaine irlandaise qui s'appelle l'IRA Véritable et qui est opposée au maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. L'IRA Véritable qui veut une Irlande réunifiée. Retour devant le Parlement pour Theresa May. Après une cinglante défaite la semaine dernière, la première ministre britannique doit présenter son plan B, une motion qui précise les prochaines étapes du processus du Brexit, alors que de plus en plus de Britanniques demandent, eux, un deuxième référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Antoine Gignot.
La solution est loin de faire l'unanimité, mais elle représente désormais une alternative à la crise. 170 patrons viennent de signer une lettre commune pour réclamer un deuxième référendum, une vraie avancée pour Simon Thompson, porte-parole du mouvement People's Vote.
Nous sommes confiants, les sondages montrent que les gens sont en train de réaliser ce que le Brexit va entraîner pour l'emploi, les pertes pour l'industrie, et on a de plus en plus de députés qui soutiennent ce deuxième référendum.
Des députés essentiellement de gauche, plus de 70 travaillistes demandent ouvertement à Jeremy Corbyn de soutenir un deuxième référendum, mais le chef de l'opposition renâcle. Les sondages montrent qu'en prenant position, il risque de perdre un quart de ses électeurs. L'autre difficulté, c'est la lenteur du processus. Robert Hazell est spécialiste des institutions au University College de Londres.
On estime que ça prendrait 5 à 6 mois au minimum, le temps de faire valider le processus par le Parlement, désigner les organisations chargées de faire campagne, il y a enfin la campagne en elle-même.
Autrement dit, impossible de quitter l'Union européenne le 29 mars prochain comme prévu, impossible également d'organiser le scrutin avant les élections européennes du printemps.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Vous l'avez peut-être aperçu, Guillaume, une lune rougeâtre cette nuit pendant l'éclipse totale. Vous l'avez vu ou pas ?
Oui, assez tôt d'ailleurs.
Et l'éclipse totale qui était donc visible depuis l'Europe, l'Afrique et les Amériques. La pleine lune est apparue relativement plus grosse que d'habitude car elle était assez proche de la Terre à 358 000 km, ce qui lui vaut d'être qualifiée de super lune. Le temps de ce lundi 21 janvier, ensoleillé et froid sur une grande partie de l'Hexagone. Des gelées ce matin, avec des températures allant jusqu'à moins 5 degrés à l'intérieur des terres. Près des côtes, températures comprises entre moins 2 et 7 degrés du nord au sud. Cet après-midi, il fera entre 1 et 4 degrés dans le nord, l'est et le centre du pays. 4 à 9 degrés partout ailleurs, jusqu'à 14 près de la Méditerranée.